j'ai rencontré Dimitri Bortnikov le mardi 3 avril 2023 avec mes élèves de la Nouvelle Chance et la classe de seconde MV1 et leur professeur Thomas Lopez. Voici ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme, née au lendemain de la Révolution, apprend à survivre. Au fil des années, ballottée de région en région, elle s'illustre par son courage. Après la perte de ses êtres chers, elle se retrouve à Léningrad, dont elle affronte le blocus par les forces nazies avec héroïsme. En charge de 12 orphelins, elle mettra tout en œuvre pour les protéger jusqu'à se sacrifier pour les sauver de la famine et de la mort. Dimitri Bortnikov nous livre ici un roman magistral où la trace de l'intime rejoint celle de la grande histoire. Contrairement à nos habitudes, mes élèves n'avaient pas lu un extrait pour l'accueillir. En voici pourtant un que nous avons préparé. Je remercie particulièrement Merlin, Choukra, Paul et Jamaël. Les bruits dans l'orphelinat couraient aussi vite que dans les prisons. Les gosses racontaient bien des choses à propos de Maria, de son pied surtout.
Ah ça, une vraie sauvage.
Avec un ours.
Vous verriez son pied.
Une femme.
Un monstre.
Mange par terre.
Et grogne.
Ne la regardez pas dans les yeux.
Surtout pas.
La première fois qu'elle s'est assise devant une gamelle de patates à l'huile de tournesol dans le réfectoire, les gosses se sont levés.
Oui, tous.
Et puis sont venus un à un vers elle, et après tous ensemble pour la regarder.
De plus près.
Une bête jamais vue.
Les plus petits avaient peur d'abord.
Les plus grands les poussaient vers elle, ayant peur aussi.
Et Maria ?
Elle souriait. Juste, elle souriait autour d'elle.
Et ce sont les plus petits qui se sont approchés de plus près.
Ils voulaient la toucher.
Ils l'ont touchée.
Les bras, le dos.
Les mains.
Anna a tout vu, mais elle a laissé faire. Les plus petits, fascinés, ont tiré le fichu de la tête de Maria et se sont mis à toucher ses cheveux en brosse, comme un champ de blé après la moisson. Ils y passaient leurs petites mains, tout doucement. Et les cheveux de Maria faisaient et les petits se regardaient, souriaient comme font tous les gosses en caressant la fourrure d'un grand animal dont ils n'ont plus peur.
Maria, évitant de les regarder dans les yeux, ne souriait plus.
Assise, les yeux clos, les mains sur les genoux.
Immobile,
en attendant que ça passe.
Comme une idole qui patiente lorsque les enfants de l'homme finissent leur adoration avec leurs mains émerveillées.
Je m'appelle Dimitri Bortnikov, je suis d'origine russe, et même, vous pouvez juger selon mon accent, je suis russe tout court. Je ne vais pas parler russe, vous inquiétez pas, je vais parler français. Je suis né en Russie, j'ai 55 ans, je suis né sur les bords de la Volga. C'est un fleuve, grand fleuve, qui descend du nord jusqu'à la mer Caspienne, si ça vous dit quelque chose. Donc c'est très large, très long. C'est le plus grand fleuve de la Russie. Et quand j'avais votre âge, on nageait, tout le monde savait nager à côté de la Volga. Et on faisait les compétitions, traverser la Volga à nage avec une cigarette allumée, avec une seule main. Voilà. On terminait la cigarette et on revenait avec une autre main. Et mon père, qui était un très grand bon nageur, il arrêtait de fumer à la suite de ces compétitions. Donc voilà mes présentations. Je suis venu en France après la chute de l'Union soviétique. Mais je ne suis pas du tout immigré. Je ne suis pas en exil. Je ne me sens pas en exil en France. Parce que je suis venu pour faire mes études en France. Mes études des langues. J'ai commencé mes études de médecine en Russie. J'ai commencé à écrire assez tard, avant 5 ans à peu près. Pour tout vous dire que après 3 rencontres, déjà, je sens que mon forfait de parole aujourd'hui commence à être un peu épuisé. Parce que parler comme ça tout seul, surtout de mon propre livre, c'est assez délicat et compliqué. Franchement, c'est plus facile de trouver un vieux pantalon dans lequel on n'a jamais pété que de présenter pour un écrivain son propre travail. Donc, si vous pouvez m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, comme les préliminaires, après je vais m'échauffer et vous n'allez plus m'arrêter. Donc, posez-moi une question, ou deux, ou trois même, si vous avez envie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc, posez-moi une question et ça va me lancer. Si vous voulez lancer un boulet, comme ça, comme moi, allez, lancez une question.
Pourquoi avoir écrit cette histoire? Quel message voulez-vous passer à travers cette histoire?
Donc, déjà, je vais vous dire une chose, c'est que l'histoire en soi, l'histoire dans la littérature, c'est une chose, pour moi, presque, je dirais pas secondaire. Mais c'est comme la rencontre entre le ventre et le pain. C'est la rencontre entre la faim et la nourriture. En France, tout le monde aime bien manger. Hein ? Il y a une grande cuisine en France. On fait des très jolis plats. On mange bien, on boit bien. Mais il y a, j'ai mon propre concept, mes propres idées sur la littérature et sur la façon de faire la littérature comme faire la cuisine. Pour vous, un bon cuisinier, c'est celui qui fait la bonne cuisine, non? C'est normal. Tout à fait. Pour moi, un bon cuisinier, c'est celui qui donne faim. C'est lui qui donne faim. On peut dire, j'ai beau manger, mais je n'ai plus faim. La littérature, pour moi, la grande, la vraie, c'est c'est d'inspirer la faim. Pour qu'un être humain retrouve la faim, la vraie faim. Et la vraie faim ne fait pas grossir, est très bon pour la santé. Donc je termine cette métaphore pour la faim et je vais parler de la littérature. Donc l'histoire de ce livre, de ce personnage, c'est que c'est une fille, l'air de rien, en plus en firme, qui boite, qui habite dans un village, qui ne sait pas lire ni écrire, issue d'une famille très pauvre, mais qui a le droit de vivre. Souvent, je vais vous dire une chose dure, parce que j'ai appris ça très tôt. Souvent, on nous oblige à vivre comme si on ne méritait pas de vivre. Lutter toujours contre ça. Vous avez la mérite de vivre. Vous êtes digne de vivre. Vous êtes digne de votre propre désir de vivre et de ce que vous faites de votre vie. Le reste, c'est l'appel du pied d'un cul-jatte. Voilà. Tout ce qu'on vous raconte, après, c'est laisser tout ça dans le troisième oreille. Vous avez le droit de vivre. Et ça, c'est très important. Vous avez le droit de manger. Vous avez le droit d'avoir faim. Et vous avez le droit d'avoir la joie de vivre. N'oubliez jamais ça. La joie de vivre existe. Franchement. Et parfois, on est tellement déprimé, on est au fond du trou, mais parfois, il faut descendre très profondément pour retrouver après sur quoi s'appuyer pour rebondir. Et vous avez tout à fait le droit de rebondir. 10 fois, si ça n'arrive pas 11 fois, 1000 fois, vous avez le droit. Vous n'avez pas seulement le droit au plaisir, à la liberté, à la maternité, à l'égalité, mais vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Après, il faut savoir ce que vous voulez. Ça, c'est un autre chapitre. Encore une autre question ?
Est-ce que le personnage de Maria est inspiré d'une personne en particulier dans votre entourage ? Et si oui, de qui ? Sinon, pourquoi avoir choisi un tel personnage comme principal protagoniste de votre récit ?
C'est une très bonne question. On recule. Dans mon entourage, il n'y avait pas une personne comme ça. Il n'y en avait pas. Mais j'ai choisi ce personnage. Si on peut choisir le personnage, moi je ne suis pas du tout sûr qu'on peut choisir. C'est une partie de moi. Maria, ça fait partie de moi. Tout ce qui est bien en moi, tout ce qui est bon en moi, c'est cette Maria. Le reste, ce n'est pas bon. Je suis menteur, je suis gourmand, je suis coureur de jupons, je suis fumeur, je bois. Bon, je me drogue pas. Mais la meilleure partie de moi, c'est cette fille en firme qui donne sa vie à un moment donné pour sauver les enfants. Et dans chacun de nous, il y a cette meilleure partie. J'en suis sûr. Quand j'étais en prison, pour discuter avec les détenus, je leur disais toujours, lorsque un seul homme sur cette terre est en prison, toute l'humanité est en prison. On ne peut pas se sauver soi-même seulement. Il faut sauver les autres. Il faut sauver ses amis, il faut sauver plus du monde au moment de péril. Et je vais vous dire une chose. Lorsque on est fatigué, lorsque on est abattu, lorsque on est déprimé, lorsque on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est à ce moment-là il y a une sorte de sortie vers la vie et vers la joie de vivre, vers quelque chose qui vous fortifie. Plus on a envie de s'allonger parfois, plus il faut se mettre debout. C'est tout à fait paradoxal ce que je vous dis. Tout à fait paradoxal. Mais il suffit qu'une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, vous faites un effort qui vous amène vers la joie de savoir, de découvrir, une seule fois, ça devient une habitude. Moi, je détestais faire des études. Détestais. Mais vraiment, les études, pour moi, c'était... Et en plus, à l'Union soviétique, je peux vous dire, une mouche ne volait pas dans la classe. Il ne fallait pas qu'une mouche vole. Les mouches, j'ai vu 3 mouches devant la porte qui se posaient devant la classe et continuaient à pied. Il ne fallait pas voler. 3 mouches rentraient, disaient « Bonjour ». Madame le professeur, il s'asseyait. C'était strict comme en prison. Il fallait, on disait vous, et les profs nous disaient vous aussi. Donc c'était, j'ai détesté cette ambiance. Je voulais faire du théâtre, mais il n'y avait pas de théâtre. Je voulais chanter, mais le prof de musique m'a dit, c'est un ours ivre qui t'a marché sur l'oreille, tu entends rien. Donc, T'es un bon à rien. Et comme je suis bon à rien, je me suis dit, dans ce cas-là, un bon à rien doit être prêt à tout. Donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Personne ne vous dit, oh, vous êtes un génie en biologie. On ne vous pousse pas. Vous avez 5 routes devant vous. Vous pouvez tout faire. Simplement, à un moment donné, il faut s'appliquer. Il faut s'inspirer. ressentir la joie. Parce que dans chacun de vous et de nous, il y a le bon et le mauvais. Et c'est toujours le mauvais qui dit, écoute, arrête, hein. Tu peux aller fumer tranquillement, tu peux voir ta copine, les études, bon, c'est après, tu feras ça après. Ou après-demain. Ça arrive à tout le monde. Regarde plutôt une petite série. Tu fais les streamings, regarde. Allonge-toi et regarde. Après, tu feras. C'est rien. C'est à ce moment-là, il faut agir. Parce que lorsqu'on est confronté à notre propre fainéantise, indifférence, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et une fois la situation est renversée, là, tout va. Bon, j'ai l'impression d'exhorter les soldats. Oui. Oui, c'est vrai, c'était Maria qui parle. Bon, avec la voix un peu bizarre.
C'était la première partie de la rencontre avec Dimitri Bortnikov dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire.